Vous écoutez, on lit pour vous.
Le harcèlement en milieu de travail, une chronique du Centre Infojustice Saskatchewan, parue le 5 novembre 2024 dans L'Eau vive. Obligation des employeurs et employés. Prévenir et lutter contre le harcèlement au travail est une responsabilité partagée par tous. Toute personne qui travaille ou qui interagit en milieu de travail a une obligation de respect et de diligence. Chaque employeur en Saskatchewan a l'obligation d'assurer que ses employés ne sont pas exposés à du harcèlement dans toute affaire aux circonstances découlant de l'emploi. De plus, la loi prévoit que les employeurs doivent adopter et mettre en place une politique contre le harcèlement sexuel au travail, incluant un processus de signalement et de plainte en toute confidentialité. Des modèles de politique en français sont disponibles sur notre site saskinfojustice.ca. Politique sur le harcèlement sexuel en milieu de travail, entreprise et organisation. Politique sur le harcèlement, OSBL. Du côté des employés, doivent s'assurer qu'ils ne participent pas passivement au harcèlement en acceptant le comportement inapproprié des autres et signaler dès que possible toute situation liée à du harcèlement et respecter la confidentialité des informations et s'abstenir de tout comportement de représailles contre un employé ou une employée parce que celui-ci ou celle-ci a déposé une plainte ou les témoins et toute autre personne impliquée dans le processus de résolution. Les employeurs ont cette même obligation. Vous croyez être victime de harcèlement sexuel au travail? Quoi faire? Tous les employés peuvent choisir de confronter directement un harceleur. Si vous voulez le faire, assurez-vous d'être en sécurité et envisagez de demander à un tiers d'être présent. La victime hésite souvent à porter plainte par crainte de représailles ou de conséquences économiques. À noter que toute victime qui porte plainte est légalement protégée contre les mesures de représailles par son employeur en raison du simple dépôt de sa plainte. Si un employeur ne respectait pas ce droit, la Division de la santé et de la sécurité au travail, Occupational Health and Safety Division, peut intervenir. Il est important de vous rappeler que vous avez le pouvoir de prendre vos propres décisions sur ce que vous voulez faire. La décision d'agir ou de garder le silence peut avoir un impact sur votre futur emploi ainsi que sur votre bien-être physique et mental. Indépendamment de ce que vous décidez de faire à ce sujet, c'est toujours une bonne idée de prendre des notes sur ce qui s'est passé. Si vous décidez d'agir, cela peut être très utile. Se confier à un ami ou à un collègue de confiance peut également vous aider à faire face à la situation et vous apporter du soutien. Ou porter plainte. Toute personne peut faire un signalement ou porter plainte auprès de son supérieur, son représentant désigné ou à son employeur, selon le cas. Il est aussi possible pour une victime de discrimination fondée sur un motif interdit de déposer une plainte auprès de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan. Déposer une demande auprès du Workers' Compensation Board si le milieu de travail le permet. Déposer un grief lorsque le milieu de travail est syndiqué ou de déposer une plainte auprès du Labor Relations Board si le syndicat n'a pas bien représenté la victime dans sa plainte. Déposer un recours civil ou criminel, selon le cas. Témoins de harcèlement au travail, quoi faire? Les témoins peuvent jouer un rôle essentiel dans la création d'un milieu de travail sans harcèlement. Voici certaines choses qu'un témoin peut faire. Décider s'il est sécuritaire et approprié d'intervenir. Ne faites pas de vous une cible. Si vous pouvez intervenir, dites directement et fermement au harceleur que son comportement est inacceptable. Par exemple, « Je n'ai pas trouvé ça drôle. ce n'est pas bien. Cette blague est de nature sexiste et cela peut créer un environnement hostile pour les travailleurs. Distrayez le harceleur en posant une question à la personne harcelée ou à lui. Une question qui n'a aucun rapport. Trouvez l'aide d'une autre personne sur le lieu de travail pour aider. Parlez à la personne qui a été harcelée et offrez votre soutien. Vous pouvez également décider d'attendre et d'obtenir des informations et des conseils sur la marche à suivre. Documentez ce que vous avez vu et entendu. Cela pourrait également inclure des informations pertinentes, comme des captures d'écran de texte, en imprimant des courriels, en conservant des photos, des vidéos et des copies d'autres documents offensants. Faites un suivi auprès de la personne harcelée et proposez-lui de signaler ce que vous avez vu ou entendu. Les hommes et les femmes ont des perceptions différentes du harcèlement sexuel. Ce qui peut être une petite plaisanterie pour beaucoup d'hommes peut être offensante pour beaucoup de femmes. Selon les statistiques, les femmes sont plus affectées par le harcèlement sexuel que les hommes. Le harcèlement sexuel au travail, c'est quoi? Un commentaire, un geste ou un contact de nature sexuelle qui est offensant et non voulu. C'est une expression de pouvoir. Il peut être perpétré par un supérieur, un collègue, un bénévole, un client, un patient ou même une personne du grand public. Être accompagné de menaces, de promesses ou d'abus. Survenir entre personnes de sexe différent ou entre personnes de même sexe. Être un seul incident ou une série d'incidents. Où peut-il avoir lieu? Sur le lieu de travail ou lors d'événements liés au travail. Ce qui n'est pas considéré comme du harcèlement sexuel en milieu de travail. Les relations amoureuses, le flirt ou les plaisanteries amicales acceptées par les deux parties. Le harcèlement sexuel et la loi. La Saskatchewan Employment Act, loi sur l'emploi en Saskatchewan, définit le harcèlement sexuel comme suit. Tout comportement, commentaire, démonstration, action ou geste de nature sexuelle dont le harceleur savait ou aurait dû savoir que cela était importun. Le Code des droits de la personne de la Saskatchewan. Le harcèlement sexuel est une forme de discrimination qui porte atteinte aux droits garantis par le Code. Le harcèlement sexuel n'est pas autorisé en milieu de travail, comme dans les écoles, collèges, universités et la prestation d'un service public. Par exemple, les clients dans un restaurant, les patients nécessitant des soins médicaux, les locataires d'un appartement sont protégés contre le harcèlement sexuel. Si vous travaillez pour un employeur sous réglementation fédérale, comme une banque ou une compagnie aérienne, vous bénéficiez de protection contre le harcèlement sexuel au travail en vertu du Code canadien du travail et du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence au travail. Les employés et les employeurs en milieu de travail syndiqués ont les mêmes droits et responsabilités que ceux non syndiqués. Le harcèlement sexuel en milieu de travail est illégal au Canada. C'était le harcèlement en milieu de travail, une chronique du Centre Info Justice Saskatchewan, parue le 5 novembre 2024 dans L'Eau Vive.
Le privilège de vieillir, Bertrand, vivre sans filet. Un texte de La Presse, paru le 5 novembre 2024 dans La Presse. Cloutier n'a jamais emprunté les sentiers tracés d'avance. Derrière ce mordu d'aviation et de sports extrêmes se cache un esprit philosophe qui, au lieu de compter les moutons avant de s'endormir, mémorise les 81 enseignements taoïstes du Tao Te Ching. À 70 ans, entre un marathon et un saut en parachute, ce grand amoureux de la vie fait tout en son pouvoir pour défier le passage du temps. en parallèle d'une carrière de fonctionnaire municipal, Bertrand a mené une vie de haute voltige. J'ai été pilote de brousse. J'ai eu ma compagnie d'aviation. Relate celui qui, lorsqu'il était petit garçon, au fin fond du lac Saint-Jean, rêvait de devenir pilote d'avion. Aujourd'hui, ce passionné du ciel cumule plus de 2500 heures de vol et termine sa qualification pour devenir instructeur. Toujours en quête d'altitude et d'adrénaline, Bertrand affiche aussi au compteur quelques 5000 sauts en parachute, dont 1700 en chute libre extrême, base jump. Toutes les façons de s'envoyer en l'air, dit-il en plaisantant. Pour expliquer l'attrait qu'exerce sur lui la chute libre, le parachutiste s'en remet à la science. Sauter en parachute, c'est combattre à la fois la peur la plus ancestrale de l'humain, tomber, et réaliser le plus vieux rêve de l'homme, voler. Quand ces deux ingrédients sont réunis, trois glandes s'activent dans le cerveau et produisent la phényléthylamine. Chez certaines personnes, cette hormone a l'effet d'une bombe émotionnelle. C'est l'équivalent de recréer artificiellement un coup de foudre amoureux. Évidemment, on veut revivre cette émotion-là. Mais après un bout de temps, pour y arriver, comme avec une drogue, il faut aller plus loin dans la prise de risque, vaincre une peur plus forte. En 1989, Bertrand a partagé un moment très spécial avec sept de ses frères et sœurs, ainsi qu'avec sa mère, en réalisant un saut en parachute en famille. À la poursuite d'une éternelle jeunesse. Lorsqu'il n'est pas entre ciel et terre, le retraité mène une vie active, ponctuée de défis de toutes sortes. À l'âge de 66 ans, 6 mois et 6 jours, il a entrepris un jeûne de 6 jours, pendant lequel il a couru quotidiennement 11,1 km, un total de 666 km. The Number of the Beast, comme dans la chanson d'Iron Maiden, s'exclame-t-il. Pour souligner ses 73 ans, il compte faire le tour du lac Saint-Jean en unicycle. Pourquoi donc Bertrand pratique-t-il le jeûne prolongé? Sa réponse? Principalement parce que ça ralentirait le processus de vieillissement, selon ce que démontrent les études récentes sur le sujet. Mais aussi parce que ça amène une clarté mentale que je trouve fascinante à expérimenter. Attention! L'étiquette du casse-cou intrépide qui multiplie les excès ne colle pas à Bertrand. Adepte d'alimentation cétogène, ne s'autorisant un verre de vin qu'à l'occasion, le septuagénaire traite son corps comme un temple sacré. À ses yeux, la vitalité repose sur l'équilibre entre la santé physique, mentale et émotionnelle. L'ensemble de ce que je le fais pour garder cette énergie vitale, dit-il. La santé physique et physiologique, poursuit-il, on peut l'atteindre en faisant de l'exercice et en veillant à la santé de nos organes. Mentalement, il y a la mémoire et les autres facultés cognitives qu'il faut exercer. Puis, émotionnellement, c'est d'éviter la dépression. Pour moi, c'est ça, vieillir en santé. Nourrir le corps et l'esprit. Pour canaliser son énergie débordante, Bertrand pratique et enseigne le tai chi. Il trouve ainsi le juste milieu entre être actif et être zen. Au-delà des bienfaits physiques, cette discipline représente pour lui un cheminement spirituel. Avec moi, ça philosophe beaucoup, dit-il en riant. Je suis comme ça depuis l'enfance. Libre penseur et insatiable curieux, Bertrand nourrit, entre autres, son intérêt pour la philosophie en méditant les préceptes du taoïsme qui incite à vivre en harmonie avec la nature. Mettez-le au défi et Bertrand récitera par cœur une cinquantaine d'aphorismes tirés de cette philosophie chinoise. Il s'agit simplement d'une autre acrobatie mentale qu'il exécute pour garder ses facultés alertes. Bertrand Cloutier conclut à 70 ans. Vieillir, oui, c'est un privilège. Mais un privilège, ça s'acquiert et ça se préserve. Si je suis ici, c'est pour honorer ce privilège-là. J'ai envie de dire aux gens, bougez. Bougez philosophiquement si vous ne pouvez pas le faire physiquement. C'était le privilège de vieillir, Bertrand, vivre sans filet. Un texte de La Presse, paru le 5 novembre 2024 dans La Presse.
La constance de Chantal Hébert. Un texte de Chantal Guy, paru le 10 novembre 2024 dans La Presse. Je connais beaucoup de gens que la politique ennuie profondément, en particulier la politique canadienne, mais qui écoutent Chantal Hébert avec plaisir. Peut-être parce que, depuis toujours, elle laisse le public se faire sa propre idée, ce qui explique qu'il a envie de savoir la sienne, qui est franche, concise et directe. On n'a jamais l'impression de se faire servir une cassette ni d'avoir à être d'accord ou pas avec elle. On fait juste prendre des notes. En tout cas, je pourrais l'écouter pendant des heures, car elle est aussi une usine à anecdotes politiques hilarantes. Elle a certainement ses détracteurs. Mais en pleine crise des médias, Chantal Hébert demeure une figure respectée dans le paysage journalistique, et ce, de chaque côté des deux solitudes, ce qui lui a valu cette année le prestigieux prix Michener-Baxter, la plus haute distinction en journalisme au Canada. Au café où elle m'a donné rendez-vous au centre-ville de Montréal, un jeune homme est même venu lui témoigner son admiration. Comment explique-t-elle cette confiance qu'elle inspire? « Je n'en ai absolument aucune idée, » répond-elle. « J'imagine, en étant d'une certaine constance. Je ne suis pas vraiment du genre à me déchirer la chemise. Pour moi, les faits sont plus importants que ce qu'on en pense. Je prétends qu'il n'y a pas d'opinion en politique qui n'est pas bonne. Qui décide ce que c'est le consensus? » Selon Chantal Hébert, la plupart des électeurs sont assez intelligents, si on leur donne les éléments d'information, pour arriver eux-mêmes à leurs conclusions. Je pense que mon opinion politique ne vaut pas plus cher que celle des gens qui sont en train de boire un café à côté de nous et qui ne font pas ce que je fais dans la vie. Je n'ai pas la science infuse. Chantal Hébert ne fait pas partie de ceux qui pensent qu'il y a trop d'opinions dans les médias. Généralement, les gens qui chialent qu'il y a trop d'opinions, c'est parce qu'ils n'entendent pas assez la leur, et s'ils l'entendent, ils pensent qu'on l'entend moins que l'autre. C'est une question de perception. En ayant travaillé dans les deux langues officielles dans de nombreux médias pendant toute sa carrière, Chantal Hébert en sait quelque chose. On l'accusait d'être souverainiste ou fédéraliste selon le canal où elle s'exprimait. Tout ce qui changeait était la boîte de conserve, mais c'était la même soupe dedans, note-t-elle. Au début de sa carrière, elle a observé avec amusement les journalistes anglophones qui expliquaient le Québec au public anglo et les journalistes francophones qui expliquaient le Canada aux franco. Souvent sans maîtriser la langue de la majorité québécoise d'un côté et sans être allé plus loin qu'Ottawa pour parler du « rest of Canada » de l'autre. Alors évidemment qu'on ne se comprend pas, conclut-elle. Ce qui explique peut-être, comme mon ami Paul Wells le disait, qu'en politique canadienne, quand il se passe quelque chose, le résultat le plus ennuyant est le plus probable. Ici, on n'est pas dans les drames. Je ne risque pas ma vie en faisant ce que je fais. Oui, le Canada a plein d'autres problèmes, mais à l'échelle humaine, 90% des gens qui vivent ailleurs seraient souvent mieux ici. Elle ne trouve pas non plus qu'au pays, on est plus polarisé qu'avant, contrairement à ce qui se passe chez nos voisins américains. De retour d'un voyage en Colombie-Britannique, la province où, dit-elle, s'affrontent le plus la gauche et la droite, elle a constaté que, malgré tout, les gens sont capables de se parler sans s'arracher les yeux. En revanche, elle a remarqué dans les derniers mois que d'un océan à l'autre, ce n'était pas du tout Trudeau, Poilievre, Singh ou Blanchet qui monopolisaient les discussions, mais les élections américaines. Notre rencontre s'est déroulée avant de connaître les résultats du 5 novembre 2024. À son avis, ni un gouvernement conservateur, ni un gouvernement libéral n'auraient envie d'avoir à négocier avec Donald Trump, que tous ses anciens collaborateurs décrivent comme ingérable. Moi, je peux normaliser à peu près n'importe quel politicien canadien, ce n'est pas un problème. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à dire « Arrêtez de dire que M. Ford est comme Trump. Il y a des limites à dire des conneries, mais je ne peux pas normaliser Donald Trump. » Pas en écoutant tous ces gens-là qui le connaissent bien. Vous écoutez « La constance de Chantal Hébert », un texte de Chantal Guy, paru le 10 novembre 2024 dans la presse. La liberté de la pigiste. Une journée type dans la vie de Chantal Hébert commence tôt, avec la préparation de ses interventions à la radio matinale, puis plus tard à la télé. Entre tout ça, elle s'informe et écoute la période des questions à la Chambre des communes, un moment idéal, paraît-il, pour texter en toute confidentialité les élus qui s'ennuient sur les bancs. Elle écrit ses chroniques et aide ses petits-enfants pour leurs devoirs, en plus de passer du temps sur le réseau X qu'elle apprécie et qu'elle appelle encore Twitter, malgré toutes les critiques qu'on en fait. Elle trouve même important d'y être comme journaliste. Sinon, on laisse Twitter à tous les fous de la planète. Quelque part, les gens qui ont des idées et des faits à défendre doivent accepter d'occuper le terrain aussi, pas s'en aller se cacher chez eux en disant « on est trop méchant avec moi », dit celle qui a reçu sa première menace de mort après l'échec de l'accord du lac Meech. Le réseau X offre, dit-elle, un plus grand lectorat que n'importe quel journal pour lequel on pourrait écrire. Elle ne réplique pas plus aux insultes qu'aux compliments. Bref, elle entretient une saine hygiène dans l'information et n'écoute plus les nouvelles avant d'aller se coucher pour mieux dormir. Chantal Hébert ne pense pas non plus à la retraite tant qu'on voudra encore bien d'elle, puisqu'elle est pigiste, et cela lui a toujours convenu. Elle en a long à dire sur le métier et trouve qu'autrefois, on fonctionnait en silo sans se parler. Je ne veux pas minimiser l'ingérence étrangère, la manipulation ou la désinformation, mais le fait est que, néanmoins, les premiers agents de désinformation avant, c'étaient des journalistes des médias mainstream qui vivaient dans des silos, affirme-t-elle. Ces silos ont été brisés. Non pas parce qu'on est devenu plus éclairé, mais parce qu'à cause des médias sociaux, ça devient impossible de dire, par exemple, des insanités en anglais sur le Québec sans se faire taper dessus et vice-versa. Quant à ce qu'elle appelle « les mesurettes du Canada pour encadrer les GAFAM », Chantal Hébert ne se fait aucune illusion. Ça m'étonnerait qu'on arrive à de grandes solutions parce qu'il y a des intérêts économiques là-dedans. On ne s'en va pas vers un moment où les gouvernements nationaux vont réussir à imposer leur volonté aux GAFAM. Un monde de plus en plus complexe. S'il y a une chose qu'elle a vu changer au fil du temps, c'est la complexité des crises. Gouverner est devenu de plus en plus difficile à son avis. Le prochain premier ministre du Canada, dit-elle, que ce soit l'ancien ou le nouveau, sera obligé de composer avec des choses qu'on n'a pas été habitué à imaginer. Comme l'Inde et la Chine qui ne nous parlent pas. Ou la crise climatique. Quand j'ai commencé à couvrir la politique, régler un problème, ça s'appelait « faire une loi sur les langues officielles » ou bien « conclure un accord constitutionnel ». En clair, c'était des arrangements internes. Elle rappelle que le ministre des Finances sous le gouvernement Harper passait plus de temps dans des rencontres du G7 et du G20 qu'avec les ministres des Finances provinciaux en raison d'une crise économique globale. Une fois qu'on est là-dedans, les gouvernements ne peuvent pas dire « je vais régler les prix à l'épicerie ». On va faire ça comment? S'il y a un cataclysme qui fait qu'on n'a plus d'oranges de la Floride, pas d'olives pour faire de l'huile d'olive, pas de chocolat. Presque tous les problèmes dont les gouvernements sont saisis, qu'ils soient nationaux ou provinciaux, sont des problèmes qui dépassent les pouvoirs qu'ils ont. De même que si demain, le Québec avait les pleins pouvoirs en immigration, le sujet de l'heure, il aurait les mêmes problèmes et les mêmes ententes internationales qui le forceraient à accepter les réfugiés dans un monde où il y a de plus en plus de conflits. On n'est plus en train de parler de la guerre du Vietnam. On est sur plusieurs fronts. Malgré tout, elle trouve un peu ennuyeuse cette tendance générale à trouver que tout était mieux avant. Le Canada et le Québec sont devenus moins homogènes, note-t-elle. Le « nous » s'est beaucoup élargi. Les gens comme moi, c'est-à-dire une femme, qui parlait anglais avec un accent, ça n'existait pas en politique, c'était inconcevable. Alors, quand on me demande si c'était mieux avant, est-ce que d'abord on pourrait aller lire les journaux des années 1980 pour savoir si c'était si extraordinaire que ça? Je ne peux pas vous dire si c'était l'âge d'or, parce qu'il n'y avait pas de place pour des gens comme moi. Qui est Chantal Hébert? Elle est née le 24 avril 1954 à Ottawa. Elle a grandi à Toronto et vit à Montréal depuis la fin des années 1990. Elle est diplômée du Collège universitaire de Glendon de l'Université York, Senior Fellow au Collège Massé de l'Université de Toronto et a obtenu plusieurs doctorats honorifiques. Dans sa longue carrière, qui a commencé en 1975, elle a travaillé notamment pour Radio-Canada, CBC, RDI, Le Devoir, La Presse, l'Ottawa Citizen, le National Post, le Toronto Star et l'Actualité. Chantal Hébert, qui est officière de l'Ordre du Canada, a reçu cette année le prix Michener-Baxter. C'était « La constance de Chantal Hébert », un texte de Chantal Guy, paru le 10 novembre 2024 dans La Presse.